Raymond Richard au micro, bien nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Alors il y a autour de ce micro Mimounen Bati pour les musulmans, Alain Jeunesse, Marie-Chantal Renard et Jean-Pierre Dubreuil pour les humanistes, Catherine Bianchi pour les protestants, Jean Bodvini pour les juifs et Raymond Desguy-Richard, animateur et catholique. Dans la première partie de l'émission, quelques points d'actualité. Marie-Chantal, je crois que vous soulignez quelque chose qui rejoint aussi les préoccupations du monde entier autour des femmes.
C'est le besoin de liberté des femmes d'Afghanistan, d'Iran, qui luttent justement pour avoir leur liberté et leur place et pouvoir aussi, en Afghanistan, aller à l'école. Les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école et donc il y aura sûrement un gros problème. Peut-être pas maintenant, mais plus tard, c'est que les femmes ne seront pas soignées parce qu'il n'y aura plus de femmes médecins, parce que les hommes n'ont pas le droit de soigner les femmes. Donc ça va être un gros problème. Et puis, de toute façon, c'est normal que la femme ait une place qui soit respectée et ne soit pas toujours soumise.
Et en Afghanistan, ça se fait au nom de la religion.
Oui, bien sûr.
C'est de l'islam complètement dévoyé.
C'est complètement... Il n'y a aucun texte qui soutient ces...
Donc là, on voit comment les politiques s'arrogent le droit de discriminer en utilisant l'argument religieux à mauvais escient.
Toujours.
Jean, vous aviez aussi une intervention qui rejoint aussi Dreux.
Oui, absolument. Dans la première quinzaine de janvier, le journal Ouest-France a diffusé une vidéo où Michel Drucker, vous savez Michel Drucker, l'animateur télé bien connu, a salué un docteur en pharmacie qui s'appelle Olivier Ebner, dont il venait de lire le livre qui s'appelle « Venu de Bukovine », publié en 2013. Dans son livre, il retrace le témoignage de son père Albert, qui est né en Bukovine autrichienne en Roumanie en 1907, et qui a fait ses études de médecine en France, à Tours, en compagnie du père de Michel Drucker. Abner Ebner était installé à Laon, près de Dreux, quelques kilomètres de Dreux, et a pu exercer la médecine jusqu'au premier trimestre 1942, où sa femme a été raflée. Le couple Ebner était un couple de juifs, et donc, un peu avant la rafle du Veldiv, il y a eu une rafle pour vider le camp de Drancy, de façon à laisser la place aux gens qui allaient être raflés au Veldiv en juillet 1942. Et comme ils n'avaient pas suffisamment de monde, parce que les Allemands, les nazis demandaient des trains de 1000 personnes, voire plus, eh bien il y a eu des petites rafles qui ont eu lieu avant la rafle du Veldiv, et Madame Ebner a été raflée chez elle. Son mari, lui, a été laissé parce qu'il était tuberculeux. Donc, le docteur Ebner a pu rester au sanatorium de Dreux. Fin 1943, il a pu se cacher parce qu'il a été de nouveau pris par les Allemands, mais les Allemands n'aimaient pas la tuberculose active. Il a donc pu se cacher dans la commune de Carantilly, dans la Manche, chez un couple qui s'appelle Jean-Baptiste et Maria Le Cartier. Donc, il a été sauvé successivement par des gens de Dreux et puis par cette famille de Normandie. Et la commune de Carantilly va faire une cérémonie commémorative le 11 février avec la participation de collégiens et de lycéens de la commune. Alors, ça m'a intéressé parce que j'ai moi-même travaillé sur cette histoire il y a quelques années. Ça a été publié dans la revue numéro 38 de la Société des Amis du Musée. Et surtout, son sauvetage ainsi que celui de ses enfants doivent beaucoup à cette fameuse pharmacienne, Madame Cavrois, de la rue Saint-Pierre.
C'est intéressant parce que là, on associe quelque chose qui est une régression avec quelque chose qui était positif dans une période de régression épouvantable aussi.
Absolument.
Quoi, on peut toujours...
Les gens risquaient leur vie.
Espérer un peu.
À cacher, à sauver les Juifs.
Bon, autrement, eh bien, c'est pas un scoop. Le pape Benoît XVI a disparu, donc maintenant nous n'avons que un pape dans le monde catholique. Mais à cet égard, c'est vrai que Benoît XVI a écrit quand même des textes qui proposaient aux chrétiens et aux catholiques surtout d'utiliser leur raison. Parce que pendant trop longtemps, dans l'Église catholique, on se contentait de répéter, plus ou moins machinalement, la Bible, sans trop travailler dessus, sauf pour ceux dont c'était le métier, les exégèses, les biblistes, etc. Et Benoît XVI est un de ces papes qui a libéré l'usage de la Bible pour tout le monde et aussi mis en exergue le fait de croire et comprendre. Il a écrit notamment l'encyclique Fides et Ratio, la foi et la raison. Eh bien, pour le reste de notre émission, nous avions pensé qu'il était important, dans une période où on évoque le travail, sa pénibilité, la retraite qui est bienvenue après le travail, eh bien de réfléchir à ce que représente le travail. Alors, ce qui nous apparaissait en premier point, c'était la diversité des situations. Et ça, Catherine.
Oui, parce que au XVIIe et XVIIIe siècle, la carte des développements économiques de l'Europe épouse très nettement les frontières entre les pays d'obédience protestante du Nord et catholique du Sud. Et au XVIIe siècle, on s'est interrogé pourquoi le terreau des nations latines, des pays du Sud, s'était appauvri alors que les pays du Nord paraissaient s'enrichir, prospérer. Et au cœur de la réforme protestante se trouve la conviction qu'il n'y a pas d'espérance et de salut ou de justification qu'à travers un acte de foi personnel dans l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus-Christ. La conviction qu'une vocation est adressée par Dieu à tout individu, laquelle fait de chacun une personne unique et responsable d'elle-même. C'est ce qui va être appelé le sacerdoce universel des croyants, conviction que croyant est prêtre devant Dieu. Pour Luther, le métier prendra de plus en plus d'importance. À ses yeux, la vie monastique soustrait l'homme aux devoirs de ce monde, alors que l'accomplissement des devoirs professionnels dans le monde devient l'expression la plus directe de l'amour du prochain commandé par l'Évangile.
Donc le travail est indispensable.
Et puis Calvin, lui qui a exhorté ses coreligionnaires à devenir responsables d'eux-mêmes, n'avait pas imaginé l'ampleur de ses propos, avec ses conséquences qui vont, sur plusieurs siècles, ébranler la plupart des structures hiérarchiques du Moyen-Âge et inspirer le remplacement par des structures de type démocratique, que ce soit dans la sphère civile, politique ou dans la société religieuse. Et Calvin enrichira les thèses de Luther par la conviction que la dignité du travail découle du fait que le travail de l'homme s'inscrit dans le prolongement du travail que Dieu entreprend dans le monde pour les hommes. Au travers de son travail, l'homme est fait collaborateur de Dieu. Il est placé dans la position de gérant ou intendant, appelé à mettre en œuvre et en valeur toutes les richesses de la création. Et en morale protestante, l'oisiveté a toujours été considérée comme étant un vice particulièrement répréhensible, par lequel l'oisive dénature en quelque sorte son humanité. Le refus du travail, la paresse, sont interprétés comme le refus de répondre aux attentes de Dieu, comme une forme de rupture avec lui. Voilà.
Évidemment, quelquefois, ce sera un peu tordu, et on dira, dans le monde protestant qui favorise le travail, c'est très positif, mais en même temps, l'exploitation associée à ce travail, parce qu'il y a eu le dévoiement des affaires. Dans le monde musulman, par rapport au travail,
le travail est considéré comme une adoration. Il a le même statut que la prière ou le jeûne. Et on rejoint les protestants au niveau de l'oisiveté, c'est condamné, ainsi que la mendicité même, si ce n'est pas justifié. Le travail est vraiment mis en avant dans plusieurs versets du Coran, donc dans le livre des musulmans, et qu'ils incitent les musulmans à se mettre, pour ceux qui ont les moyens physiques et évidemment mentaux, à se mettre à travailler pour subvenir à leurs besoins ainsi de leur famille. Il y a un événement qui est arrivé sous le deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab, où à cette époque-là, il y avait deux jeunes qui passaient leur temps dans le lieu de culte à prier, alors que leurs vieux parents, eux, allaient chercher du bois, etc. Donc le compagnon, le calife exactement, les a interpellés en leur disant que l'argent et l'or ne descendaient pas du ciel, et les a vivement encouragés à aller ramasser du bois pour au moins chauffer chez eux et faire à manger, ce qu'ils ont fait. Voilà, mais ensuite, concernant, bon, là on parle de retraite, mais le seul terme retraite qui est employé dans les écrits musulmans, c'est les retraites spirituelles. Et concernant les personnes qui arrivent à un âge avancé, il y a l'obligation de leurs proches de
se prendre en charge.
En charge. Voilà.
Bon, alors dans le monde catholique, eh bien, on se réfère à la Thessaloniciens où finalement Paul dit « l'homme qui ne travaille pas ne mange pas ». Mais c'est vrai que tout récemment, dans les textes de l'Église catholique, le pape François notamment insiste sur un travail qui est respectueux de l'homme et qui ne soumet pas ce travail à la technique, à la productivité et à l'argent. Donc le travail doit permettre l'épanouissement de l'homme en tenant compte de ses capacités, de ses compétences, en tenant compte des besoins qu'a la société et en tenant compte de la relation que ce travail exige pour la société. Mais on retrouve cette dimension sociale, ce qui va nous amener dans une deuxième partie à réfléchir sur la question du sens du travail.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Le sens du travail, c'est de fait, dans ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est un besoin pour construire la société et qui mettait les gens en relation. Alors comment ça se passe concrètement? Puisqu'on voit par exemple que dans un certain nombre de chantiers, notamment les chantiers qui ont été développés au Qatar par exemple,
la Coupe du Monde,
football, on a l'impression que même si l'islam est très présent et même si les gens qui viennent travailler sont des musulmans qui sont d'ailleurs, on a l'impression que là, il n'y a même pas cette solidarité entre musulmans.
Juste pour info, le Qatar, la Coupe du Monde qui a eu lieu cette année, ce n'est pas le premier événement sportif qu'ils organisent. En 2015, ils ont organisé la Coupe du Monde de handball, c'était en janvier. Et on n'a pas entendu parler de toutes ces polémiques. Bon, si on cite que le Qatar, bon, ils ont fait énormément d'efforts au niveau des droits humains. Certes, ils ont encore à s'améliorer au niveau des droits des travailleurs, mais je pense pas que ça soit le pire des pays où la condition des travailleurs n'est pas respectée. Il y a d'autres endroits où c'est bien plus bien que ça.
Notamment, vous évoquiez tout à l'heure la situation d'une entreprise pas très loin d'ici.
Pas très loin d'ici, qui est une entreprise qui est dans le recyclage, où les travailleurs travaillent dans des conditions, moi que j'estime, inacceptables. Que ce soit au niveau du bruit, les salles de pause sont dans un état lamentable, les sanitaires, on n'en parle pas. Et je ne sais pas. Niveau sanitaire, est-ce qu'il faut être vacciné ou pas, parce que ils travaillent quand même dans c'est des produits qui viennent de la décharge, hein, donc il y a toutes les maladies qui courent là-dedans. Je ne sais même pas s'ils sont vaccinés, ces personnes. Je ne sais pas. Des personnes en situation difficile qu'on exploite. C'est beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français aussi dans des situations qui sortent de prison.
Ils ont des protections
pour Ils ont, bon, oui, des gants, maintenant, c'est accessible, ça, les gants, les lunettes, les masques, maintenant. Mais après, c'est tout le reste qui va pas du tout.
L'exploitation, quoi.
Au niveau sécurité, je sais pas si les normes de sécurité, il n'y a aucune norme de sécurité. Vous avez une personne qui vient avec un Fenwick qui vous déverse des écrans de télé à vos pieds, et vous vous baissez pour le ramasser, vous triez, vous cassez à coups de marteau. Je pensais pas que les entreprises de recyclage c'était un peu plus moderne. Je pensais que c'était des machines dans lesquelles on jette les produits et que la machine trie elle-même après ensuite le plastique, les métaux. Mais non, ce que je constate, c'est que c'est nul plus ou moins du profit économique, c'est tout. Et, ils récupèrent tout ce qui est métaux rares et précieux et qui revendent ça par la suite. Mais l'être humain, il est vraiment au bas de l'échelle.
Il doit y avoir des accidents, taux d'accidents.
Bah, et souvent des arrêts chez eux. Bon, c'est une entreprise de réinsertion. Voilà.
On voit l'ambiguïté d'une entreprise à statut social.
Oui, absolument. Qui doit certainement toucher des subventions de l'État, parce que c'est un taux de réinsertion. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais c'est là.
Et c'est intéressant parce que, en fait, souvent ce recyclage se faisait auparavant, on emmenait tous ces produits
dans les pays
des tiers-monde.
Tels que l'Inde, par exemple.
L'Inde, le Bangladesh.
Mais je lui ai cru un moment.
Et à un moment donné, ces pays ont dit, eh bien non, recyclez vous-même vos
déchets.
Vos déchets. Très intéressant de poser la question de nos sociétés qui génèrent beaucoup de déchets. Ce sera pour l'objet d'une autre émission.
Bah, c'est énorme. Si vous allez. C'est des montagnes, c'est incroyable. Et l'entreprise a investi parce que bon, ils ont construit des bâtiments, ils ont fait je ne sais plus combien de mètres carrés d'enrobés. L'enrobé, c'est tout ce qui est goudron, ils ont goudronné les parkings, qui a dû coûter quelques millions d'euros.
Pour que les produits effluents ne.
Voilà, tout à fait. Mettre des caméras de protection pour éviter que les salariés récupèrent quoi que ce soit, bon, des trottinettes, vous avez des téléphones portables, vous avez des ordinateurs, des grippins, des cafetières électriques. C'est interdit à tous vos salariés de récupérer quoi que ce soit, alors que ça va à la destruction.
Oui, mais c'est trié et après c'est brûlé ou bien...
C'est trié, broyé en fonction du matériau. Plastique.
Oui, il récupère les matériaux.
Oui, mais il récupère tout, hein. Tout est récupéré. Hein.
Oui, bien sûr.
Oui, mais après, c'est récupéré dans l'entreprise.
Cette entreprise-là, c'est à tri et ensuite à renvoi dans d'autres entreprises qui, eux, rachètent. Voilà, comme le plastique, il le broie, c'est coupé en petits morceaux, mais après, ça doit certainement être transformé en granulé.
Donc là, on évoquait aussi les conditions de travail, finalement. C'était. Et alors. Est-ce que nos religions ont un rôle particulier à avoir vis-à-vis de ces conditions de travail? Et qu'en penser? Peut-être on peut se tourner aussi vers la question des droits de l'homme, tout simplement.
Voilà, religion par religion, je pense que même l'humanisme, c'est que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Bien sûr que le travail est indispensable, le travail est utile, il crée de la richesse, les pays ont besoin de richesse. Simplement, moi, à titre personnel, je considère qu'il y a des profits qui sont raisonnables et des profits qui sont pas raisonnables. Il y a des fois, on abuse, on presse à faire craquer les gens, ce qui n'est pas normal. Il y a plusieurs types de travail. Il y a un travail qu'on aime, qu'on apprécie, qui vous enrichit, qui est riche en relations avec les collègues, qui est valorisant, etc. Et puis, il y a malheureusement des travaux qu'on subit et des gens qui attendent la retraite avec impatience parce qu'ils n'en peuvent plus. Peuvent plus du bruit, enfin, conditions de travail, parce que le corps est usé, etc. D'autre part, on n'a pas tous la même espérance de vie. Alors, c'est sûr qu'on vit pour certains de plus en plus longtemps, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, personnellement, j'ai mon père, il a cotisé toute sa vie, arrivé à 60 ans, il est mort, bon, il n'a jamais profité de sa retraite. Et c'est pour ça que quand on parle des retraites, c'est un sujet qui est important, qui est énorme, pour lequel. On est tous passionnés parce qu'on ne vit pas tous les mêmes situations. Moi, j'avais un copain qui était responsable d'école de musique, il aimait bien son métier, il avait pas envie de partir en retraite. Et je le comprends, et tous les jours, il jouait du piano, il adorait ça. Bon, bah, un travail comme ça, on peut aller jusqu'à 90 ans. Hein. Sans souci.
Peut-être un peu quand même.
Non, mais
c'est vrai qu'après.
Je voyais à la télé, pas plus tard qu'aujourd'hui, une personne qui avait 108 ans qui jouait du piano tous les jours. Une petite dame. Formidable. Quand on voit ça, on dit c'est formidable, elle jouait 4 heures de piano par jour, la dame.
Elle travaillait pas.
Oui, non, elle était en retraite, mais ce que je veux dire, qu'elle faisait des choses qu'elle aimait, qui la maintenait en vie, quoi.
Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que le travail ait un sens et que ce soit. Parce qu'à la limite, le tri, ça peut se faire aussi de façon complètement automatique et dans des conditions correctes.
Ce qui se fait en Europe du Nord,
Ce qui se fait en Eure-et-Loire, dans certaines usines.
Voilà, quand on peut automatiser les travaux, par exemple, on utilise une pelleteuse pour faire un trou, dans le temps, on est à la pelle. bah, vaut mieux utiliser la pelleteuse que de faire un trou à la pelle, ça prend trois fois plus de temps. Alors, on a parlé tout à l'heure de certains emplois qui sont supprimés, mais c'est parce que le travail évolue. C'est vrai qu'on supprime certains emplois qui sont manuels, par contre, on développe des projets de recherche, la robotique, etc. Ça crée de nouveaux emplois. Le problème des nouveaux emplois, c'est qu'ils demandent de la qualification. Et tout le monde ne peut pas passer d'un emploi où vous n'avez pas de qualification à un emploi où on demande beaucoup, beaucoup de qualification. C'est ça qui est dur. Il y a toujours une partie de la population qui est laissée pour compte, qui reste sur le tapis.
Qui
ne peut pas se transformer comme ça du jour au lendemain. C'est le cas déjà de l'utilisation des ordinateurs. Les jeunes n'ont aucun problème avec les ordinateurs. Pour certains anciens, donc je fais partie, l'ordinateur, c'est pas notre tasse de thé, quoi. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on a déterminé la date de départ en retraite. Sur quels critères on s'est basé. J'ai entendu dire que le général de Gaulle avait demandé quelle était la moyenne de... À partir de quel âge on décédait. Et c'est à partir de...
Mon père a travaillé dans une filiale d'une grande société. Il a eu, dans les années 80, des plans sociaux. Il est parti à 55 ans en retraite. En pleine force de l'âge, il en a profité pendant X années, avant que la maladie... Donc c'est formidable.
Mais c'est vrai qu'on a tenu compte de la pénibilité, parce que dans ma famille, il y avait des mineurs, et j'ai un oncle qui est parti au bout de 25 ans de service dans la mine. S'il était au fond, il était mineur, bon, bien, il est parti au bout de 25 ans de travail. Et dans cette région, puisque la mine était présente partout, ça ne choquait absolument personne. Et même, ça paraissait complètement normal que les mineurs partent de bonne heure.
Ce matin, en venant en voiture, j'ai entendu, je pense que c'est un sportif, j'ai allumé juste à ce moment-là, il prend sa retraite à 37 ans.
Oui, bah oui. Ouais. C'est le gardien de but, l'ancien gardien de but de l'OM, Mandanda. Mais ça représente sportif. Hein.
Pas être érigé en système, mais ça veut dire qu'en fait, il y a toujours à tenir compte des personnes. Et c'est ça qui semble important, finalement. Tenir compte des personnes, tenir compte du travail, tenir compte de la qualité du travail. Donc, plutôt qu'ériger des normes, il faudrait peut-être dire, bon, il y a des normes qui paraissent importantes, mais en même temps, il y a une qualité du travail qui doit permettre à ceux qui travaillent de le faire dans de bonnes conditions.
Oui, moi, je pense que les gens qui sont usés, les gens qui ont été mal payés, on dit, enfin ceux qui ont été exploités, c'est parce qu'il y a des exploiteurs.
Hein. Oui.
Bon, ça veut dire qu'on pose les problèmes sur un plan politique. Hein. Et donc, est-ce que ça voudrait dire, là, si on veut trouver les qualités positives du travail, que pour des croyants, il y a une nécessité à s'engager en politique.
Pour les croyants, mais je crois aussi pour tous les hommes.
Oui, non, mais je pense que pour les croyants, humanistes, oui. Ça va de soi. Mais, je veux dire, on n'en parle pas. Hein, là, moi, j'ai eu une petite éducation religieuse. Je n'ai pas trouvé dans ce qu'on m'a enseigné de choses qui disaient qu'il fallait s'engager politiquement.
Politiquement pour améliorer les situations.
Ben oui, puisque quand on parle de progrès humain, je pense que dans notre tête comme ça, ça veut dire améliorer la qualité de la vie quotidienne des gens, entre autres. Hein, en lui donnant en plus du sens.
Ouais. C'est vrai que le pape Paul VI disait que la politique était la forme supérieure de la charité. Donc ça, c'est quand même très clair. Mais
qui disait ça?
Paul VI.
Ah.
Un des papes. Et puis bon, auparavant, il y a toujours eu quand même la nécessité de réflexion. Là, j'avais relaté, c'est dans le texte du pape François, Fratelli Tutti. Je vous lis lentement. Dans certaines visions économiques Il ne semble pas y avoir de place, par exemple, pour les mouvements populaires rassemblant des chômeurs, des travailleurs précaires et informels, ainsi que pour beaucoup d'autres personnes qui n'entrent pas facilement dans les grilles préétablies. En réalité, elles génèrent plusieurs formes d'économie populaire et de production communautaire. Il faut penser à la participation sociale, politique et économique de telle manière qu'elle inclut les mouvements populaires, anime des structures de gouvernement locales, nationales et internationales, avec le torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Il convient que ces mouvements, ces expériences de solidarité qui grandissent du bas, du sous-sol de la planète, confluent, soient davantage coordonnées et se rencontrent.
Je crois que c'est clair. Mais ce n'est pas ce que forcément ce qui est annoncé tous les jours dans l'église. Mais c'est au numéro 169 de l'encyclique Fratelli Tutti.
Mais chez les protestants, il y a toujours eu du social, s'occuper de son prochain. Il y a eu toutes les œuvres sociales qui sont créées. C'est quand même les protestants qui ont instauré les mutuelles. C'est quand même pour le confort de chacun, de tout le monde, une avancée sociale quand même.
Alors c'est vrai que la dimension politique en Allemagne notamment a été extrêmement importante et est devenue très vite, il y a eu ces lois, mais ça veut dire qu'en fait, autour de ces questions, ça renvoie à la responsabilité de chacun et peut-être à se coordonner.
Pour
respecter les droits de l'homme et les droits de l'homme.
Ben, respecter les droits, et puis la solidarité, parce que maintenant je trouve qu'on vit dans un monde individualiste et où chacun est devant son écran, il s'occupe de son bazar. Et tantôt il faut éteindre son bazar et puis aller regarder à droite ou à gauche. Et puis, comme disait un cousin de ma mère qui était pasteur, il dit il faut se pencher en dessous de soi. On peut avoir vertige, alors c'est pas faire d'autosatisfaction, mais c'est de se rendre compte que ben, on n'est pas si mal que ça, on a beaucoup de chance d'avoir un certain nombre de choses et qu'on peut aider les voisins qui sont en dessous. Alors oui. Il y a bien sûr toujours mieux au-dessus, mais en dessous, ben, parfois on peut tendre la main pour remonter à la surface. Celui qui...
Et puis permettre à ceux qui sont... Ce que dit le pape, hein.
Vous savez, j'ai...
Mouvement, expérience, solidarité qui grandissent du bas et qu'elles confluent.
Ah, voilà. Pour rejoindre un peu ce qu'a dit Jean-Pierre et Catherine, normalement, je vous ai cité là l'entreprise de recyclage, on devrait limiter le nombre d'années d'une personne dans ce travail. J'ai travaillé à Alençon, un centre d'écarissage. Bon, il nous en faut, des centres d'écarissage. Mais une personne qui a passé 34 ans de sa vie à travailler là-dedans, je ne sais pas, mais...
Oui, c'est ça.
Il devrait limiter ses travaux. Il nous les faut, ses travaux. C'est des travaux pénibles. Il devrait limiter en nombre d'années. Voilà, vous changez, on vous reclasse dans un
endroit un peu moins... autre.
À autre, voilà. Ce qui n'est pas fait, ben non, parce que le profit, le monsieur, il est là, il ne sait pas où aller, ou il n'a pas de moyens, ni de formation, ni de quoi que ce soit. Donc on profite de lui, il est là, on est content, il fait le travail. Et jusqu'à la retraite dans un centre d'écarissage.
Donc, oui, en fait,
là, c'est pas un novice, il est formé, quoi. Il peut former des gens derrière.
Voilà, il peut en former d'autres, et lui, hop, on passe dans un travail un peu moins pénible.
Donc, que ce soit nos religions, ou nos morales, ou nos. En tout cas, on a à tenir compte de. Si j'entends un peu ce qu'on a dit, puisque le temps s'écoule dans cette émission. C'est qu'en fait, au-delà de la question du travail, c'est la question du sens du travail, du sens de l'homme, du respect de l'homme. Et pour cela, on a besoin de se coordonner humaniste, simplement les hommes, pour que les droits de l'homme soient respectés ici et ailleurs. Ce sera peut-être le mot de la fin. Je vous dis, chers auditeurs, bonne semaine à tous. Et... A bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.